création
on air.
On air. On air.
Creation on air.
Bonsoir. Comme une autre aussi dangereuse, elle court la maladie d'alcool. Après une guerre de 5 années, avec plusieurs hospitalisations sous contrainte ou non, après l'épreuve de la vie vacillante, du regard des ex-amis, les rencontres avec des compagnons d'infortune qu'elle dit fugitifs mais si proches, après le plongeon dans l'ivresse, les comas à répétition, l'ébahissement devant les figures flottantes des urgences, la soif inextinguible, l'état de manque, après tous ces états du corps, des mots sont venus pour dire comment ça vous touche l'alcool. Une musicienne, Christine Massetti, est entrée dans cette noyade pour composer les sons de la dérive. Adagio Maladie, Anne Sultan et Véronique Lamandour, création On Air.
L'écume du corps. Je souviens, premier centre de cure, long couloir et parc, ici à Paris, un jour de juin.
Je suis le médecin qui va vous suivre.
Le premier jour a lieu le dépôt du corps. Suis venu seul, ici, déposer reste de corps. Reste de corps on range dans une chambre et on fait parler. Taille, poids, tension.
Température.
Sang.
Foie.
Langue,
urine,
thorax,
cœur,
tête,
nez,
gorge,
poumon,
dents,
mâchoire.
Pourquoi, quand, comment, depuis quand?
Pourquoi, quoi, combien, comment?
Le degré, qui sait, ne sait pas.
Pourquoi, depuis quand, depuis quoi? Le degré,
le quoi,
comment, pourquoi ça?
Ça.
100 fois. Et ma chambre n'a même pas une heure que 100 fois déjà.
Reposez-vous aujourd'hui, ne faites rien.
Et ces mains qui n'en finissent pas de trembler, qui va venir dans le lit d'à côté? Et comme longue est ma peau étalée sur le lit, attendant le lit d'à côté.
Nous pouvons tous tomber facilement dans la maladie d'alcool. C'est pas quelque chose qui est seulement l'effet des personnes, je sais pas, des clochards ou des... Non, non, n'importe qui peut tomber. Et moi, je vous dis que j'ai vu dans mes années de conseils, j'ai vu tout. Absolument tout. N'importe quelle des personnes de différentes conditions sociales, on voit tout. Et c'est une vraie drogue, hein.
T'as bu, toi, ce matin?
Elle annonce la couleur, le couloir encore entrouvert.
Pas de baratin, tu vois ça. Pas de blabla, pas avec moi, pas entre nous. Bon, tu viens à la réunion?
Un gage de reconnaissance.
Je vomis, je te dis. C'est comme ça quand j'arrête.
Elle, qui s'annonce ainsi, va partager ici ma vie. Elle prend sa part du petit lieu qu'on se partage à partir de là, de maintenant.
Ici, on vient tout plein de ça, tout rempli au-dedans. Comme un doudou qu'on ne laisse pas, c'est comme ça. On laisse le doudou s'éloigner peu à peu, qu'il s'évacue avec la pisse. Elle vomit le doudou, le sien. Moi non. Je suis venu... Sans doudou, sans rien que moi. Sans doudou, rien d'autre que moi et mon poids, et puis le reste qu'on mesure. Moins sans doudou.
Alors cette béquille, ça nous aide à surmonter des moments qui peuvent être plus ou moins difficiles.
Ça ne m'a pas accompagné, pas ce matin, pas aujourd'hui. Hier encore au soir, ça, oui, je me souviens. Me vois encore gorgé de la buée de trop bu. Un corps liquide, désaccordé, tout liquide.
En fait, il s'agit d'une maladie, la maladie d'alcool, qui est une maladie très complexe pour nous médecins. Tout ce qu'on a appris dans l'école de médecine ne nous aide pas énormément. C'est-à-dire que on est préparé à intervenir et à soigner dans les cas de la maladie alcoolique. Situation d'urgence. On connaît les médicaments qu'il faut pour cela. Mais pour ce qui est de la complexité de cette maladie qui touche des domaines différents comme la psychiatrie, comme la médecine générale, enfin, c'est une maladie somatique aussi, c'est une maladie sociale, c'est une maladie liée à l'environnement. Pour nous médecins, et ce n'est pas facile d'intervenir et surtout de suivre et d'accompagner, car on ne peut pas parler de guérir. Il y a des choses que non, il faut être honnête, qu'on ne comprend pas de ces mécanismes, qu'on ne comprend pas complètement. Et on peut donc dire qu'on va accompagner.
Tout liquide.
Corps liquide, comme le liquide pénètre en lui. Mou et liquide, jusqu'à ce qu'il heurte le dur du sol, alors n'est plus liquide. Cassé à réparer, éclaté en morceaux, éparpillé et sa part de partout. Corps étalé au sol en linge sale taché de sang.
Tout liquide. Liquide avalé, tout liquide. Liquide rejeté de par tous les trous du corps. Bouche, anus, vagin. Ça chie liquide, ça vomit, ça saigne, ça pleure, ça morve, ça coule, s'écoule comme ça peut. Et ça se pleut dessus. Corps n'est plus que ça. Liquide.
Liquide. Sauf à heurter le dur du sol. Le corps me tombe dessus. Là, il est os, articulation, ligament, peau meurtrie par les bleus, cassable, friable, cassé. Corps loque, inessorable, corps continent d'incontinence. Flaque. Impossible de les goûter. Le liquide ingéré s'expulse furieusement, violemment, douloureusement, de partout, je vous l'ai dit, impossible de les goûter, je me dégoûte. Éclaté en morceaux, éparpillé, et ça part de partout.
Où va mon corps?
Où va mon corps?
Où se vit-il?
Où s'invite-t-il?
Dans quel conduit va mon corps? Tuyau.
Où se vit-il?
Où se vit-il? Dans quel conduit?
Tuyau.
Égout.
Dégout. Thank you.
patient et peut être dangereux pour lui-même. C'est un peu le cas qui me sonnait dans la pièce, et c'est un peu comme ça que j'ai connu ma patiente. Je me disais que c'était pas du tout évident, car même dans les centres de santé de Bagneux, les secrétaires et les autres médecins, comment ça va avec ta nouvelle patiente? Et bon, ça va pour l'instant, mais c'est vrai que ça n'allait pas. Et j'avais très peur aussi quand les téléphones sonnaient. Des fois, je me disais, aïe, est-ce que c'est pour elle qu'on m'appelle pour me dire qu'elle a eu un accident?
Le corps, après tomber, impossible à soulever, à ramasser. Ramper, alors parfois sinon debout, il apprend à marcher et rechute encore. Alors debout, il est comme les premiers pas d'un enfant. Mais là alors, personne ne rit de joie, pas comme l'enfant quand debout titubant ses premiers pas. Quelle première fois! Personne ne rit plus devant moi, titubant, mais plus comme l'enfant.
La galère, c'est tout le temps qu'il passe pour se procurer la dose et se procurer l'argent pour se payer la dose. Donc tout ça, sur les 24 heures, il y a presque toute la journée qui passe dans cette histoire. Et après, il faut penser au lendemain.
Le corps me tombe dessus.
On peut devenir voleur.
Pourquoi?
Désaccordé.
Donc on peut taper dans la rue.
Pourquoi?
Cette maladie est vraiment très complexe. Alors en particulier, il est difficile à vivre pour les femmes, car on est dans le cas d'une femme. Et difficile car vous savez bien que en vie sociale en France comme ailleurs, hein, c'est pas seulement la France, mais en particulier en France, et un homme qui ne boit pas est un peu regardé, un peu, oh, il ne boit pas, lui, qu'est-ce qu'il a? Ah, il est malade. Et peut-être que c'est un ancien alcoolique. C'est pour ça qu'il ne peut pas boire. Par contre, les femmes, non. En principe, les femmes qui boivent et qui fument, maintenant, c'est rentré plus dans les mœurs. Mais il y a quelques années, c'était pas très bien vu. Et en tout cas, même si les femmes boivent un verre d'alcool, c'est parfaitement. Mais qu'ils soient en état d'ivresse, alors là, c'est...
Ah non. Si grave.
Ça, on peut pas supporter ça.
Vous devriez être morte.
Donc, pour les femmes qui sont, obligées de supporter le regard des autres et la censure, quelque part, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de garder toujours bonne figure et de consommer en cachette. Ça, c'est très courant chez les femmes, ces consommations qui est très culpabilisante. Donc pire encore. Et là, il faut dire que l'imagination n'a pas de limite. Hein. Je me rappelle d'une de mes patientes qui venait régulièrement en consultation, des années qui étaient suivies, une dame âgée d'ailleurs, ou comme on dit, on aurait donné les bons dieux sans confession, et son mari l'accompagnait, tout le temps il était là. Mais lui, il était méfiant. Et moi, je disais, monsieur, il faut, si on ne le fait pas confiance, on n'ira pas bien loin. C'est elle qui doit, on ne peut pas la surveiller. Mais lui, il ne pouvait pas s'empêcher de la surveiller, de chercher s'il y avait des bouteilles cachées quelque part. Et un jour, j'ai compris comment ça s'est passé. C'est qu'il avait un petit jardin, et malheureusement, dans les jardins, il y avait des escargots. Je ne sais pas si vous connaissez qu'est-ce qu'il faut faire pour les escargots, mais il semble qu'ils aiment bien la bière. Donc on fait des pièges à escargots avec la bière. Donc ma patiente, elle faisait des pièges à escargots, mais s'est pichée elle-même.
Je... Vite. À peine debout. Et sa peine à tenir. Debout. Deux pieds. Levés vite et en place.
Debout.
Les membres tremblent encore de la veille. Non. Ça tremble parce que la veille. De trop. Se taire. Et vite, de tout ça qui gigote malgré soi. Éteindre le tremblement de la veille de trop.
Vite.
D'abord, coucher cadavre de la veille de trop, puis recouvrir avec papier journal et sac plastique, moins sonore comme ça au moment du jeter dans poubelle commune. Tout un art et tout ce temps pour...
Puis, descendre angéliquement poubelle bien scellée dans poubelle commune. La peur au ventre, s'assurer d'un temps minimum, parfois si court, quoi, 5 minutes, et courir au plus proche à corps perdu avant que le laps ne soit écoulé. 2 temps, 3 mouvements, un corps qui court et revient sur ses pas, c'est pas le bon sac, il faut l'autre, plus grand, plus du liquide pour...
Ça,
plus 2 ou 3 choses inutiles pour ne pas revenir qu'avec...
Ça.
Donc, avec combien de liquide vaisselle inutilement acheté, mais combien précieux celui-là de liquide.
Puis, retour, la peur au pas de course, comme le laps s'écoule. Contre-montre, je remontre le temps.
J'ai vite. Éviter voisinage, puis tremblement, transpirant, ouvrir tout ça, en même temps couvrir le robinet de l'évier en grand. Éteindre le bruit du débouchage. Tout un art et tout ce temps pour... Disséminer tout ça après que débouché partout, ici ou là, mais d'abord
dans la bouche.
Au moins 2 points de chute, ici et là, voilà. Mais déjà je l'entends.
Après ça, épier, aller venue de l'autre dans l'appartement et alterner points de chute, la peur au goulot qui l'inopinément abrège. Lui et le téléphone de l'autre côté d'ici. Et que l'idée vienne à lui alors de venir depuis l'autre côté, ici. Et bouche au goulot découverte, alors.
Nous on dit que l'alcool et la dépression, ça va de pair. Et c'est comme l'œuf et la poule. On ne sait pas qui est le premier.
Je me souviens.
Elle, du lit d'à côté, dans ce centre de cure. On ne se quitte plus. Des volutes dessinent à l'air libre les tracés de tes lointains voyages. Tu les aspires le soir tombé jusqu'à l'évanouissement et tu te rêves enfin guérie.
Morte. En vente libre. Un matin, tôt. M'apprends que tu n'es plus. Étouffé. Dans ton vomi, ton mari t'a trouvé. Je ne pas.
Je te pense et j'absente, absorbée que je suis par le foudroyant silence où tu m'as laissé là. Ivresse, vraisemblablement.
Vraisemblablement,
tu as tété la mort et te l'as bien rendue, puis tu as rendu âme au sol, solitaire. Ta mort n'est pas plus sale que celle-là d'un enfant. Toute maladie a sa noblesse, la tienne autant qu'une autre. Je ne laisserai pas dire. Veuve est ma grande amitié.
La souffrance de quelqu'un qui ne peut pas se débarrasser de l'alcool, quoi. il y a des cas difficiles, les cas où j'ai perdu des patients. J'ai des patients qui sont suicidés, heureusement pas beaucoup. Alors, il est évident aussi qu'on se demande si elle veut vraiment se débarrasser de l'alcool. Il comprend, il sait, au fond de, ou elle sait au fond d'elle-même qu'il doit arrêter sa consommation, que ses produits sont en train de lui pourrir la vie, en quelque sorte. Mais il n'arrive pas et il a aussi la honte de consulter les pas, de franchir les pas, d'arriver dans son cabinet médical est pas facile. Je pense qu'une fois qu'on a fait ces pas-là, on a déjà fait peut-être pas 50%, mais presque du travail.
Je ne veux pas.
Je ne veux pas être sauvé. Nous avons très peu de médicaments, je crois qu'on peut compter avec les doigts de la main, et ils ne sont pas très efficaces. C'est-à-dire des médicaments qui vont permettre aux patients qui passent par la case du sévrage, qui peut être en ambulatoire ou hospitalier. Les sévrages hospitaliers, c'est ce qu'on appelle, même dans la pièce, c'est noté, c'est ce qu'on appelle la cure. Il semble que beaucoup des patients et des familles pensent que la cure est une espèce de panacée universelle. Et c'est loin d'être le cas.
Aujourd'hui, je me revisite.
Arpentant la vie à travers le couloir, arpenter ma vie dedans tous ces couloirs, d'autres parcs et d'autres premières fois. La première cure n'a pas suffi. Les autres cures n'ont pas suffi. Les années suivantes aussi s'abîment la vie, s'allongent les pertes.
Tout basculait, tanguait, en moi comme autour, la tempête. Je m'y jetais à corps perdu, et n'ai pas pu le sauver, lui, ni cet enfant, l'enfant à naître. Au lieu de ça, les ai noyés, je crois. Je les noyais bien malgré moi, ces perles de vie. Pourquoi ?
Ça prenait le dessus sur ma vie, à moi. Je n'ai pas su repousser ça. Lui, à mes côtés, côte à côte, depuis plus de 20 ans. Lui ne peut plus dormir, ne peut plus travailler, ne peut plus aimer, n'a pas pu m'accompagner dans cette dérive, cette lutte à mort contre moi-même. Je ne juge pas l'homme que j'aimais.
Où vais-je aller, dis maman. Toi qui me vois venir, oui, je reviens vers elle. Sans logis, sans lui, sans plus rien mais que ça, j'entre dans ta maison. Et dans cet hôpital assigné à ses jours, et mes jours sous contrainte.
Je dévivais ma vie. Sous contrainte, famille et médecins m'ont placé. Pour me sauver, je vous le dis, ils ont signé. Alors, on m'embarque de force ou de gré. Une fois même, on me notait. Je ne veux pas être sauvé.
J'ai toujours pensé que les ressources, les clés de la guérison, si on peut parler de guérison, de la rémission, sont dans les patients lui-même. Et là, il a ses pouvoirs. Il a les moyens, sauf qu'il ne les sait pas. Donc, c'est nous, Et c'est là toutes les difficultés de l'art, c'est de pouvoir montrer aux compagnies, montrer aux patients quelles sont ces possibilités. Parce que les possibilités sont là.
Pourquoi ça?
Moi, j'ai toujours pensé qu'on ne peut pas soigner les gens contre leur gré. Mais dans certaines situations, et en particulier, je reviens sur le problème de l'alcool, c'est que les patients ne sont pas maîtres de leurs pensées, je dirais. Donc, dans ces cas-là, je crois que oui, qu'on peut s'autoriser à dire, on peut, c'est le cas à ce moment-là d'une personne, serait non assistance à une personne en danger de ne pas prendre les dispositions qu'il faut. C'est-à-dire, pour ça, il y a un outil, je dirais, juridique, qui s'appelle l'hospitalisation à la demande entière, c'est-à-dire qu'on peut demander. Les médecins traitants ou même la famille peuvent demander que la personne soit placée. Et malheureusement, des fois, on est obligé de recourir à ces mesures extrêmes de force d'hospitalisation.
Durant plus de 3 ans, ces visages et ces lieux accompagnent ma vie, séjour après séjour. Ici, à Paris, le plus grand hôpital, des locaux insalubres, sales, tristes, à mourir. Un très vieux pavillon barreaux aux fenêtres et détruit depuis. Comme je le vois. Du long couloir, coulent les errances. On erre sa vie, on n'est plus rien. Qu'un pyjama bleu dans un long couloir d'hôpital. En attente. De quoi ?
Le dimanche à midi, c'est gâteau et café. Non. On ne peut pas manger en même temps que trembler. Trembler est alors un état de corps à plein temps. On a mal, oui, ça fait mal. On transpire, on a peur, on tremble de partout. Alors, ça ne peut plus de la main approcher la fourchette de la bouche. Le geste d'approcher fourchette de la bouche se dérobe au vouloir. Il faut cesser de s'alimenter jusqu'à tendre la faim. La fin des tremblements, au moins le premier jour. Alors, je quitte la table.
Tremblement.
Sans manger.
Sans manger.
Quand on consomme trop, il y aura des symptômes. Quand on consomme trop d'alcool ou quand on l'arrête brutalement, il y aura aussi des symptômes qui sont très importants, ceux qui sont mentionnés dans la pièce. Et ces syndromes de manque peuvent aller, les plus simples, c'est des tremblements, en principe les tremblements fins des extrémités, les mains. Et d'ailleurs, les personnes qui boivent sont du mal le matin à consommer les premiers verres, car tout tombe par terre. Il y avait un patient là. Bon, je ne sais pas si je vais rentrer dans... Mais il y avait un patient qui savait, il m'avait appris la technique, comment il fallait faire. Il fallait avoir une écharpe pour entourer le verre avec l'écharpe et pouvoir l'approcher sans laisser tomber une goutte, d'après lui.
Femme corps.
Donc, ces symptômes sont... Et j'ai dit c'est les tremblements fins d'extrémité, et ensuite il peut y avoir des crises convulsives, des crises d'épilepsie. Ça, c'est déjà moins agréable. Et même, si on va plus loin, on va au délirium tremens, qui est c'est délirium qui est auditif et au visuel, et les patients qui ont arrêté brutalement. C'est pour cela qu'il faut, il faut les aider. Quand on décide en sévrage, il faut donner les médicaments. Ça, on connaît bien quels médicaments il faut donner pour éviter ces syndromes de sévrage. Mais il y a aussi tous les autres symptômes qui sont plus liés à ces problèmes psychiatriques et qui nécessitent cela un suivi beaucoup plus long et qui nécessitent aussi d'autres types de thérapies. Et là, peuvent intervenir, ils sont, je pense, important que la prise en charge soit pluridisciplinaire, avec des psychologues, avec, nous savons, à l'hôpital, des psychologues, n'est-ce pas, des diététiciennes, des psychomotriciennes, des médecins généralistes, des spécialistes des problèmes hépatiques, des kinésithérapeutes, enfin.
Aux urgences, mes premiers souvenirs remontent au réveil. Avant ça, c'est la nuit.
La première image du réveil de l'œil. Dans ce lit aux urgences, j'ouvre un œil. Les fragments rescapés de la veille se rassemblent peu à peu, sans mémoire, sauf des bleus pour ne pas oublier, des bleus, des bosses ici ou là. Je parcours aussi le visage.
Dans ce lit aux urgences, en pleine nuit ou au petit matin, l'œil levé, lavé de la buée de trop bu, tombe sur ça, le bras emperfusé, lié, relié au lit et l'enchaîne là dans un lent goutte à goutte.
Sans pourquoi réfléchir, comme la vie recommence et le cauchemar est là, sous mes yeux, mon corps encordé au lit blanc, encore. Petite poche et ses gouttes dans mes veines. Cette fois, c'est moi qui relie le lit à ma vie. Me désangler de ça, au plus vite, comme la vie recommence.
Sans bruit, seule ma douleur, j'arrache au-delà de ma veine la vie qui s'insinue et coule, s'écoule en elle. Là, voilà déjà le sang qui coule, la veine est libre, mais le temps presse, et sans qu'on presse, je me souille. Rouge, de peur, de terreur, de douleur, de sauf qui peut, de au secours, en silence et seul. Crier rouge, sanglots de sang versé, immaculant le blanc du drap du lit, une fois déperfusé, seul.
Seul, le carrelage blanc et froid rougit de sang et se délave. Je sors de la chambre, j'ai froid, j'ai peur, de moi à cet instant-là. Désencordé, sans plus de corde aux bras, j'étoffe épaules et bras de drap blanc et souillé, de sang. Du bras qui coule encore dans le froid des couloirs.
J'entre, je vais de box en box, de chambre en chambre. Parfois vide, c'est si rare, souvent homme ou femme au-dedans, endormi. Sans bruit, tremblement, j'attrape ici ou là des flacons presque pleins, à 70 degrés. La douleur est si forte, alors ne plus trembler, je souviens, me vois encore têter le bec de la bouteille, la presser de mes mains comme l'enfant tête le sein, à 70 degrés.
Labyrinthe d'hôpitaux, une sortie. Désanglé, je cours accru vers une sortie. Dehors, la rue, face à face. Une brasserie juste en face. J'y précipite mes jambes sans même vouloir, pourquoi savoir, en urgence.
Dedans, l'heure du repas s'annonce à grand bruit de bouteilles et de cubiténaires. Avec comme seul vêtement blouse et pantalon bleu d'hôpital, me laissant plus que nu, je demande à l'homme derrière le bar
à boire. Il comprend d'où je viens et pourquoi j'ai besoin de ça. Elle est en manque, il dit à la femme qui surgit. Il me tend le venin dans un verre, mais le verre est si juste et ma soif si intense que j'entreprends le cubiténaire posé là sur la table. La vitesse est claire alors. J'avale l'oubli et le désespoir sous les yeux ébahis des patrons.
Ça rentre dans le restaurant, des femmes, des hommes. Il est midi et tout l'hôpital s'invite. Une femme à l'heure de l'hôpital m'épingle et me somme de regagner mon lit. Je retrouve le chemin du lit blanc en transit vers cet autre hôpital, barreaux aux fenêtres où je séjournerai, avec, dans le ventre, un peu de peur en moins et de l'oubli d'avance.
Et je fuyais.
Et je fuyais de toutes mes forces.
De toutes mes forces.
Hors de moi.
Hors de moi.
Je fuyais ce moi.
Je fuyais ce moi qui n'était pas moi.
Qui n'était pas moi.
Qui d'autre que moi?
Qui d'autre que moi pouvait mieux me fuir?
Pouvait mieux me fuir. Fuir alors dans la rue, dès que je le pouvais, dès que je ressortais. M'oublier anonymement. À ce stade, plus question de dire où l'on est. Ne plus répondre au téléphone, ne plus s'alimenter et n'avoir que ça au-dedans. L'effet n'en sera que plus fort. Vite tomber dans l'oubli profond en pleine ville.
Ça va, madame? Madame, vous m'entendez? Ça va?
Des passants bienveillants.
Madame.
Ça, j'ai eu de la chance.
Vous m'entendez?
Après, tomber au sol, inerte, ici ou là, appeler les pompiers. Urgence et hôpital.
Pompiers, bonjour. Allô? Personne blessée sur le quai, elle n'est pas passée sous le micro, hein? Direction Port de Clignancourt, c'est parti, hein? Au revoir.
Et j'ai fait une fois quelque chose qui, peut-être mes confrères ne vont pas me le pardonner, mais on était dans ce moment où la maladie battait le plan, je dirais. L'alcoolisation était très importante. Et un jour, ma patiente, elle ne pouvait presque pas tenir debout, quoi. Et on finit la consultation, elle voulait pas d'une nouvelle hospitalisation, et je le comprenais très bien. Donc on était dans un moment du suivi qui était un peu dans un impasse. Il faut le dire, je le connais. Je savais plus quoi utiliser, quoi faire, quelle molécule, s'il y avait encore la chance d'essayer une autre molécule chimique. Mais non. Et là, fini la consultation. Bon, elle va partir, elle est seule. Qu'est-ce qu'on fait? Et heureusement que j'ai terminé aussi ma dernière patiente, j'ai terminé la consultation. J'ai dit, attendez, je vais vous accompagner. Et voilà, donc on est parti dans ma voiture. Normalement, les médecins, ils font pas ça, il faut pas faire ça. C'est les patients qui doivent même s'assumer, se prendre en charge, etc. Bon, on l'a accompagné. Pas seulement l'accompagner, je restais dehors, j'ai dit elle va sortir pour aller chez l'épicier du coin, c'est procurer de l'alcool, je suis resté là, je bouge pas, et heureusement c'est, voilà, non, elle était raisonnable ce jour-là, et je crois que ça a aidé un peu, même si peut-être pas très bien, mais ça a aidé quand même à comprendre que quelque part, on était ensemble dans cette galère. On était ensemble dans ces bateaux-là. Il fallait ramer ensemble, quoi. Même si on n'était pas sûr du résultat, mais on était très compromis dans le même sens, je crois.
et les grammes grimpent avec les degrés. 4, 5, 6 grammes et mes 50 kilos. Quelques grammes et la guerre éclate dans mon corps. 4, 5.
À 6 grammes, les pompiers ne lui répondent plus. À ma mère, qui les voit me descendre, de son grenier, le sien, le corps et le visage enfouis, enfermés dans la coque qui descend l'escalier. Le pronostic vital est-il engagé ?
Les pompiers me connaissent. Les pompiers te connaissent. Ce jour-là, on ne te répond pas. Ils n'ont pas le temps de répondre. Ce jour-là, je ne réponds plus. Alors, te répondre quoi ? Pour moi, c'était l'armée en uniforme qui débarquait. En uniforme, les hommes entraient. Et moi, je ne comprenais pas. Ne voulais pas comprendre alors. Pourquoi ces hommes m'embarquaient ?
Pourquoi ?
Pourquoi ces barreaux aux fenêtres de l'hôpital ?
Pourquoi ?
Pourquoi on m'emmenotait ?
Pourquoi ?
J'ai connu ça. La privation de liberté. Mais ma vraie prison, c'était ça. Moi, je ne voyais pas ça comme ça.
Pour eux aussi, c'était la guerre. Il fallait faire vite, sans brusquer. M'interroger. Interroger le degré de l'état de conscience, mon état. Répéter, me faire répéter. Encore.
Encore.
Combien de doigts,
combien de doigts.
Vous les voyez,
vous les voyez.
Ouvrez les yeux,
ouvrez les yeux.
Répondez-moi,
répondez-moi.
Combien de doigts,
combien de doigts.
Ouvrez les yeux,
ouvrez les yeux.
Répondez-moi,
répondez-moi.
Ouvrez les yeux,
ouvrez les yeux.
Ouvrez les yeux,
ouvrez les yeux.
Les yeux.
Vous m'entendez,
vous m'entendez,
vous m'entendez.
Non. Je n'entends plus rien, je ne vois plus rien. Je suis déjà trop loin. Absentée du monde, du vôtre, je suis. Alors, il fallait deux camions pour me ranimer.
Si les patients ne croient pas, s'ils ne croient pas qu'il va guérir, ou s'ils ne croient pas qu'il va vivre, après, qu'il va vivre mieux, etc. C'est tout un complexe.
Marre de sang sur sol dur et blanc.
Un graphe planté dans le crâne pour que ça tienne.
Son de l'appareil, scrutant pouls et tension dans box aux urgences.
Froid des brancards d'ambulance.
Peur, stupeur, torpeur et froid des visages lisant le mien sortant du coma.
6 grammes. Vous devriez être morte.
Je me souviens.
Il y en avait certains qui disaient « Ah, c'est bien, il va toucher le fond et tu verras. » Non, c'est quelque chose que je ne suis pas tellement d'accord. C'est toucher les fonds, je crois que c'est horrible. Et c'est très difficile de s'en sortir quand on est au fond. Je crois qu'il faut essayer d'éviter d'arriver à ces points-là. Mais c'est très difficile pour l'entourage. C'est difficile pour les conjoints en particulier, pour les enfants, pour la famille proche, mais pour tout l'entourage aussi bien, et les amis, car ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un trouble du comportement. Donc il y aura un comportement difficile. Et pour la famille, c'est très difficile parce que la famille ne sait pas comment l'aider. Parce que l'idée, bien sûr, en principe, la plupart des fois, la famille veut vraiment l'aider, l'accompagner, mais ne sait pas comment se faire. Si on fait, comme je disais tout à l'heure, de ces messieurs qui surveillaient pour essayer de trouver les bouteilles, ce n'est pas la meilleure des solutions. Mais en même temps, sinon on se dit, est-ce que je ne fais rien ? La famille me dit, mais docteur, mais il faut que je fasse quelque chose quand même, qu'est-ce que je peux faire ? C'est malheureusement l'accompagner, l'écouter, parler, mais essayer de jouer un peu la répression, disons, les censurer, surveiller, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas parce que la personne se sent surveillée, se rend compte assez rapidement qu'on ne lui fait pas confiance et quelque part, c'est pire. Bah, ça, on peut dire que ça les donne aussi une excuse, que c'est pas pour ça qu'il fallait arrêter. Mais il va dire, oh, parce qu'on m'embête, alors, non, c'est pire. Je vois plus. Voilà.
Sans le sou, obligé de... Pour me sauver, on me retire carte et monnaie. Une curatelle me pend au nez. Alors, obligé de... Quémander, mendier. Au sortir de l'hôpital pour avoir mon dû, j'ai mendié. J'ai dû. Je dis, j'ai dû comme mon corps et cerveau réclamaient si fort. Comprenez. Je ne décide pas, je suis agi par ça. Madame, je sors de l'hôpital, on m'a volé et ces médicaments, je dois acheter. Voici la liste, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Une femme, puis d'autres femmes ainsi, sans le savoir, m'envoient à l'épicerie, non à la pharmacie.
Tout médecin, mais pas seulement médecin, mais en tout cas, surtout les médecins, nous devons toujours nous mettre en question et ne pas croire dans nos certitudes. Moi, je dis toujours qu'on devait avoir un écriteau dans le cabinet de consultation dit « J'ai doute, donc j'exerce ».
Je souviens, dans ce centre de cure, ce midi-là, elle sort, jeune femme.
Fais-moi une danse pour mon départ.
À ses côtés, jeune homme, se sont rencontrés là. Elle me demande une danse, pour elle seule. J'apprends sa mort un peu plus tard, tuée par le jeune homme, par trop en lui.
Le premier jour, on nous prévient. Ne pas échanger nos numéros. Ne pas se lier d'amitié. Ne pas s'aimer. C'est mieux. Nous, on ne comprend pas pourquoi. Seulement après, j'ai compris.
Il faut lire les textes, adagio maladie, car il y a beaucoup, pour les médecins, pour les infirmières, tous les accompagnants au niveau médical, il y a beaucoup à comprendre de notre place, de notre attitude, de notre compréhension de la maladie si on lit les textes.
Je souviens.
On revient sur la complexité de cette maladie. Et des fois, nous, médecins, on ne comprend pas qui a été ce déclic. Qui est-ce qui a provoqué le déclic? Je crois qu'il faut absolument être capable d'avoir l'esprit très, très ouvert et accepter que tout ce qu'on fait va dans le bon sens, même si on peut se tromper. Mais, et des fois, même après tout ce qu'on fait, malheureusement, si le patient ne fait pas, il ne fait pas quoi.
Lettre adressée au professeur Michel de Tilleux, alcoologue à l'hôpital Cochin, le 23 avril 2008.
Cher professeur,
Je fais suite à votre,
demande de vous envoyer quelques impressions, émotions qui m'ont traversé le fameux soir où je me suis alcoolisée. Après trois jours de permission qui se sont magnifiquement bien passés, j'aperçois
je suis hospitalisé sous contrainte, donc je ne dispose d'aucun argent, ni carte bancaire, ni chéquier, et j'en souffre.
Je ne dispose d'aucun argent, ni carte bancaire, ni chéquier, et j'en souffre. Je le vis comme une punition qui m'est infligée à 41 ans. Je le vis comme un manque de confiance vis-à-vis de moi, de la part du corps médical, de ma famille et de mes proches, comme si disposer d'argent impliquait forcément acheter de l'alcool, et j'ai mal. J'ai peur du retour à Sainte-Anne prévu le lendemain matin. J'ai peur de ne plus avoir de permission parce que je ne supporte plus les hospitalisations successives. Je réfléchis quelques instants pour savoir si je m'empare de cet argent déposé là. Si je m'en empare, ce serait pour descendre acheter de l'alcool. De l'alcool fort, pour un effet rapide et anxiolytique.
Une fois qu'on a réussi, les problèmes, c'est après. Et les après, c'est très très important, parce que les patients sont sollicités tout le temps pour l'alcool. Là, c'est un vie fort que les Anglais appellent les cravings, c'est un avis très fort et très difficile à se retenir. Donc il faut rapidement, il faut consommer. Quoi.
Je décide de descendre et j'achète l'alcool. Je ne mesure pas à cet instant les risques encourus. Je pense maîtriser la situation. Je le bois en cachette dans le local à poubelle et j'ai honte. Je remonte vite et j'appelle ma mère pour envisager les modalités du retour à Sainte-Anne. Les effets de l'alcool sur ma voix commencent à se faire entendre. Ma mère, occupée avec son père, demande à mon frère qu'il se mette en contact avec Sainte-Anne. Je ne le saurai qu'à posteriori. Sainte-Anne suggère d'appeler les pompiers pour me ramener. Je ne le saurai qu'à posteriori. Les pompiers arrivent avec mon frère. Effrayée, je me réfugie dans le local à poubelle, puis je sors dans la rue. Je me sens poursuivie. J'ai l'impression d'être une adolescente en fugue. J'ai peur et j'éteins mon portable. Les effets de l'alcool s'accentuent et gèrent quelque temps dehors. Je me dis que tout est fini, que j'ai fait du mal autour de moi. Je ne pense pas à ce moment-là que je suis en train de me faire du mal. Voilà, cher professeur, la chronologie des événements qui se sont déroulés cette nuit-là. Évidemment, ainsi que je vous l'ai rappelé au téléphone, j'ai, depuis cet événement, repris les pieds sur terre et non la bouche dans un verre. Et les contrariétés, Dieu sait si elles sont nombreuses actuellement, au lieu de me donner envie de boire, m'incite au contraire à engager un travail sur le pourquoi j'ai pu, à certains moments, me réconcilier avec mon pire ennemi à combattre. Bien à vous, Anne.
On doit préparer cette hospitalisation et vraiment en accord avec les patients. Il est évident que pour cela, la confiance entre les malades et les soignants doit être vraiment au fixe. Il y a très peu de médecins qui veulent bien s'occuper des personnes qui ont des problèmes d'alcool. Car c'est pas gratifiant. C'est pas gratifiant et c'est dur aussi parce que à chaque fois qu'on reçoit les patients, on s'est dit, aïe, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? La semaine dernière, ça allait très bien. Et peut-être que là, ça va pas du tout. Peut-être il vient pas. Oh, il est pas venu, ça y est, c'est alcoolisé. Et là, oh, on prend un coup sur notre orgueil et notre estime de soi.
Depuis la capitulation de ma maladie, tout a été revu, huilé, pensé, accordé, débouché, défissuré, remonté, déplacé, dénoué. Depuis déjà un long laps dans ce corps réaccordé par tant d'autres corps, tenant tant à ce que ça tienne encore. Debout, comme un humain.
Je suis là, donc, alors, debout, à nouveau, il faudra réapprendre à marcher. Marcher à plusieurs voix, les faire entendre ces voix-là. Et nous voilà ici, moi debout, et vous plus. Vous êtes ma bouche à bouger les mentalités. Dans mon corps, dans ma bouche, un organe à pousser. Un insécable cœur qui me bat sans sourdine pour que jamais ne soit oublié. Adagio Maladie, un monologue de Anne Sultan, mis en voix par l'auteur et le comédien Frédéric Prévost. Merci au docteur Roberto Maiso qui a accepté de confier ici son expérience d'addictologue. Merci à Christine Massetti qui a composé et improvisé la plus grande partie de ce voyage sonore, interprété par elle au violon avec Denis Huald au piano. Prise de son extérieur, Hélène Langlois. Prise de son studio et mixage, Olivier Dupré. Attaché de production, Shushan Djergaïan. Coordination, Irène Omelianenko. D'autres informations sont à retrouver sur le site de France Culture, à la page Création On Air. Adagio Maladie, une création d'Anne Sultan, réalisée par Véronique Lamandour.